France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir, à 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Brice Teinturier de l'Institut de sondage Ipsos disait hier sur Inter que les mouvements sont encore puissants dans l'opinion, qu'il y a une grande fluidité dans les intentions de vote et des transferts d'un candidat à l'autre. La fameuse cristallisation n'a donc pas eu lieu. Une bonne partie des électeurs se décideront sans doute le jour même de l'élection dimanche prochain. Voilà pour la toile de fond. Intervenez dans le téléphone sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur, la gauche, la droite, le centre, l'abstention, le service politique de la rédaction de France Inter est à votre disposition, ainsi que notre consoeur du monde, Françoise Fressoz.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr, 01 45 24 7000, c'est le standard d'Inter où nous attend Daniel. Bonsoir Daniel.
Oui. Oui, allô?
Oui, bonsoir, oui. Bienvenue, nous vous écoutons,
bonsoir,
vous nous appelez de Paris.
Jean-Daniel, en fait, je vous appelle parce que il y a 3 mois, j'étais très très clair de mon vote. Pour moi, les choses étaient simples dans ma tête. Et puis, c'est vrai que je suis devenu totalement indécis au cours des différentes périodes de débats électoraux. Et puis aujourd'hui, à une semaine en fait du vote, je me dis que je vais revenir à mon vote de conviction. Quelles qu'en soient les données, quelles qu'en soient les appels au vote utile.
Qu'est-ce qui vous a fait fluctuer dans votre certitude de voter pour tel ou tel? Je vous pose pas la question de savoir pour qui vous allez voter, parce que sinon on a des problèmes d'équilibre de temps de parole, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Dites-nous juste pourquoi vous avez évolué.
Parce qu'au fond, la position des différents candidats a complètement évolué par rapport à ce que l'on pensait, à la fois au niveau des primaires, ensuite avec les affaires, ensuite avec la montée d'un certain nombre de candidats qui, effectivement, défendent un certain nombre de convictions, mais je me retrouve pas forcément dans ces convictions et je n'arrête de penser au vote utile. Et le vote utile n'a plus beaucoup de sens. C'est-à-dire que moi, je vais voter utile, mais un autre va voter utile. Au fond, je crois que in fine, il faut revenir à des positions assez basiques. Et c'est le poids de la démocratie. Donc revenons véritablement à ce que l'on ressent et allons-y de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus claire.
C'est la première fois, Daniel, que ça vous arrive dans votre vie d'électeur que de varier de cette manière-là avant de retomber sur vos pieds?
Aussi clairement, oui, tout à fait. Parce que j'ai toujours voté, pour moi c'est un devoir, et donc de toute manière là-dessus, ça devient indispensable d'aller et d'exprimer totalement les choses.
Mais c'est de plus en plus difficile de voter donc, hein?
Oui, de plus en plus intéressant aussi. Le seul problème, c'est que l'on regarde continuellement les sondages et que l'on adapte en fait son vote au fond des sondages. Mais qu'est-ce que le vote d'une personne par rapport à des sondages dont on ne sait pas très bien et où les marges d'erreur sont, et donc les 4 candidats qui sont au top ont toutes les chances de faire un classement totalement inattendu.
Merci Jean-Daniel pour cette question d'ouverture et ce témoignage dans le téléphone sonne. On va dialoguer avec vous et avec Karine Bécard. Bonjour Karine.
Bonjour.
Journaliste politique à France Inter, Françoise Fressoz. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Journaliste politique au Monde. Et Frédéric Mettezo, le chef du service politique de France Inter. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Qui veut réagir à l'indécision majeure, un vote utile et finalement non, un vote de conviction? Françoise Fressoz.
Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous dites, monsieur, c'est que vous dites les candidats ont beaucoup changé. Non, ils sont restés, je pense, dans leurs convictions et dans leurs projets. Ils n'ont pas tellement varié. Ce qui a beaucoup changé, c'est... le fait que je pense on est beaucoup plus en difficulté que les autres années, parce que avant vous aviez un clivage gauche-droite qui structurait la présidentielle et chacun se reconnaissait dans son camp. Là, on voit qu'il y a un candidat qui perturbe le jeu, qui dit finalement je vais essayer de rassembler un morceau de la droite, un morceau de la gauche, un morceau du centre. On voit aussi qu'il y a d'autres clivages peut-être plus importants que le clivage gauche-droite qui est apparu dans la campagne, avec notamment quelle attitude face au libéralisme, face à la mondialisation, face à l'Europe. Tout ça fait que dans chacun des sujets que vous rencontrez chez les candidats, il y a un petit morceau de ce que vous attendez, peut-être un morceau que vous n'attendez pas, et en fait, vous êtes très perturbé parce que vous connaissez pas exactement vos repères et vous n'avez pas dans les candidats que vous regardez la totalité de ce que vous souhaitez. Et donc c'est pour ça que quand vous dites vote utile ou pas vote utile, je comprends très bien votre problème, parce que au fond, par rapport à vos propres convictions et par rapport au champ politique, je pense qu'il y a une sorte de déstructuration. Donc chacun va se faire son, à la fin, je pense que vous aurez dans, vous mettrez dans l'urne le bulletin de vote pour lequel vous êtes le plus en adéquation.
Frédéric Mettezo.
Moi, je crois que Jean-Daniel est victime du trop-plein, c'est-à-dire un trop-plein politique dans le sens où cette campagne, elle n'a pas commencé en novembre dernier, en décembre dernier ou en janvier. Elle a commencé beaucoup plus tôt avec les primaires. Et c'est vrai qu'on est dans un état, si on s'intéresse à la politique, et c'est le cas de notre auditeur, j'ai l'impression, quand on s'intéresse à la politique, on est saturé d'informations. On est, vous savez, comme un sol. Quand il y a eu trop d'eau, à un moment, le sol, il n'arrive plus à boire la pluie. Et du coup, ça dégorge. Et là, c'est le cas. La droite est rentrée en primaire il y a quasiment 2 ans. La gauche, ça se préparait avec François Hollande va-t-il se représenter ou pas, les frondeurs, etc. Donc, ça a vraiment fait que le débat politique a occupé quasiment la moitié du quinquennat. Et du coup, au moment de choisir, on ne sait plus trop. Donc ça s'ajoute à effectivement ce nouveau clivage dont parlait Françoise Fressoz. Il y a le clivage droite-gauche et puis il y a le clivage, pour faire simple, mondialiste, anti-mondialiste. Tout ça avec un surplus d'informations, une suroffre d'informations qui, même nous, journalistes, parfois nous perturbe un peu.
Vivement le premier tour. Karine Descartes, la parole est à vous.
Un tout petit truc pour dire que je crois aussi qu'on arrive à la limite de cette stratégie de l'électeur stratège. Voilà, on veut tout maîtriser aujourd'hui. On veut être sûr du vote qu'on va donner. Et donc, on espère pouvoir s'appuyer quasi religieusement sur les sondages. Bon, on se rend compte que finalement, ils nous les positionnent, nos 4 candidats principaux, quasiment au même point. On ne sait pas si tout ça va se révéler exact. Et donc, dans cette indécision générale, on revient à l'esprit de la Ve République, finalement. Au premier tour, on choisit, avec son cœur, presque, peut-être, ou en tout cas à peu près. Et puis, au deuxième tour, on éliminera. Donc, on revient finalement à quelque chose de classique.
Frédéric, un mot, puis Isabelle, au standard.
Oui, ce qui peut aussi brouiller le choix des électeurs, c'est les symboles. C'est important, les symboles. Marine Le Pen a choisi une rose bleue. Une rose, jusqu'ici, c'était l'emblème du Parti Socialiste. Alors, c'est vrai que c'était une rose rose. Regardez les derniers meetings de Jean-Luc Mélenchon, qui sont parsemés de drapeaux bleu, blanc, rouge. Il n'y a quasiment plus de drapeaux du PC et de la CGT. On ne chante plus l'international et Jean-Luc Mélenchon n'emploie quasiment plus le mot gauche dans les meetings. Ça aussi, ça peut, à la longue, un petit peu déstructurer et déshabituer l'auditeur, l'électeur, qui est aussi auditeur, on l'espère, par rapport à ses choix habituels.
Isabelle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez des Hauts-de-Seine, soyez la bienvenue.
Merci. Oui, j'appelle parce qu'effectivement, cette indécision, c'est parfois extrêmement douloureux. C'est vraiment un sentiment assez pénible de perdre complètement ses repères. C'est un sentiment d'écouter, de lire, de s'intéresser vraiment très honnêtement. Et en fait, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai quand même, je vote depuis très longtemps. J'ai toujours voté. Je me suis jamais posé la question de la légitimité, surtout sur un vote présidentiel. Et je ne trouve pas de candidat qui corresponde à mes opinions. Il y a un bout de ci, un bout de ça. Il faudrait que je fasse un patchwork. Il faudrait que je prenne un bout de ci pour avoir un candidat qui me convient. Et en définitive, j'avais toujours plus ou moins ce que disaient très très bien vos intervenants, des repères. Et là, les repères sont complètement torpillés. Et je ne sais plus du tout, à une semaine du vote, pour qui voter.
Et vous pensez, Isabelle, ma question est double. Vous décidez le jour J dans l'isoloir ou vous dire, pour la première fois de ma vie, peut-être, je vais voter blanc. Comme ça, au moins, j'aurai réglé le problème.
Non, je ne crois pas que je vais voter blanc. J'espère que je vais me décider avant l'isoloir, sincèrement. Sincèrement, ça m'embêterait de décider au dernier moment. C'est encore une option. Non, je ne me vois pas voter blanc. Sincèrement, je ne me vois pas voter blanc.
Et pour vous, c'est le symptôme de quelque chose. C'est le symptôme d'une crise démocratique. C'est le symptôme d'une crise politique. Ou c'est juste de l'indécision programmatique.
Non, moi, je suis très pro-européenne. Et en même temps, je ne veux pas qu'on ubérise l'économie, l'avenir de nos enfants, qu'on précarise le travail. Je ne veux surtout pas qu'on sorte de l'Europe ni qu'on sorte de l'euro. Et sur cette espèce de tension entre les deux, je ne trouve pas de candidat qui incarne vraiment ce en quoi j'aspire. Et de ce fait, je me retrouve comme ça, comme une espèce de canard sans tête, à regarder à droite, à gauche, et voilà. Donc j'ai encore une semaine pour essayer de retrouver une tête.
Six jours, Isabelle. Merci pour votre intervention. Françoise Fressoz, vous vouliez dire un mot?
Oui, moi je pense qu'il y a une frustration dans cette campagne, qu'on ressent aussi, je pense, comme journaliste, c'est qu'il a manqué quand même de débats contradictoires. On a eu 2 beaux débats. D'abord à 5 candidats. D'abord le débat des primaires où il y a quand même eu des idées avancées. Après il y a eu un débat à 5 candidats, ensuite un débat à 11 candidats. Et je pense que il a manqué du contradictoire, c'est-à-dire que les candidats se rentrent un peu dedans. se poussent dans leur retranchement pour, par exemple, dire « mais vous proposez ça, mais ça veut dire ça, ça veut... voilà les conséquences ». Et ça, on est toujours resté sur notre faim, si bien que chacun a développé son projet sur son parcours et qu'il n'y a pas eu une possibilité pour nous, les électeurs, de dire « ah bah tiens, ça c'est plutôt c'est crédible ou c'est pas crédible, ou c'est vers quoi je veux aller ou pas ». Et donc, je pense que ça, c'est une des grandes frustrations de cette campagne, c'est qu'au fond, on n'a pas vu, alors peut-être parce que c'est ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire qu'il y a tellement de clivages qui se superposent qu'on ne sait plus tellement où on en est. Mais je pense que ça a été un grand manque de la campagne. Et il y a aussi une autre chose que je voulais dire, c'est que les histoires de temps de parole, je trouve qu'en fin de campagne, au moment où on devrait avoir le choix entre vraiment des choses très importantes, on a impossibilité d'organiser un vrai débat parce qu'il faut donner une égalité de temps de parole. Et je pense que ça, c'est quand même, il y a un problème, il faut y réfléchir pour la démocratie.
Karine Bécard.
On le dit tous les 5 ans, hein, qu'il faut réfléchir à trouver de meilleures règles, on n'y arrive jamais.
Et c'est pire en pire.
Oui, c'est ça.
C'est pas Frédéric Mettezo qui va me contredire. Ce qui est marrant, c'est qu'elle dit « tous mes repères sont perturbés ». Pourtant, si on regarde bien chacun des candidats, un candidat comme François Fillon, par exemple, en ce moment, agite vraiment tous les repères pour attirer sa droite classique, conservatrice. Tous les meetings qu'on peut faire depuis, on va dire, 10, 12 jours, ça parle de la France, de cette nation, de la civilisation, de la racine, de cette France profonde, de la liberté qu'il faut. Enfin, vraiment, on a tous les indicateurs de droite classique. On a un peu la même chose de la part de Marine Le Pen, qui revient vraiment sur ses fondamentaux. Quand on voit le meeting qu'elle a fait ce week-end, c'était vraiment l'immigration à fond, mis en avant, etc. Donc, en termes de repères, au final, on les a. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a, en revanche, un Emmanuel Macron et un Jean-Luc Mélenchon, qui, eux, on a attendu beaucoup d'eux, puisque finalement, Fillon et Le Pen, on les connaît presque par cœur. On a attendu beaucoup de cette nouveauté et il n'y a pas eu d'innovation flagrante. Donc, il y a de la déception. On n'a pas forcément envie de revenir vers ce qu'on a l'impression de connaître par cœur. Et on a espéré quelque chose qui n'est jamais arrivé.
Frédéric, puis Emmanuel au standard.
Tout à l'heure, Françoise Fressoz nous parlait d'une frustration. Je crois qu'il y a une autre frustration, c'est celle que les électeurs ne peuvent pas sanctionner positivement ou négativement le quinquennat. François Hollande ne se représente pas, il a choisi de ne pas se représenter, il n'a pas d'héritier et en même temps, il n'a pas de vrai contradicteur. Alors, il y en a, bien sûr. François Fillon dit c'était pas bien sous le quinquennat Hollande, c'est normal, c'est sa posture. Mais le candidat issu du Parti Socialiste, qui est le parti du président, il ne peut pas frontalement critiquer le bilan. En même temps, il ne peut pas l'endosser. Et je pense qu'il y a cette frustration très forte chez les auditeurs. Décidément.
Chez les électeurs.
Qui, je le redis, sont des auditeurs.
Aussi.
Pas tous, mais de plus en plus.
De pouvoir donner un bon ou un mauvais point au quinquennat sortant.
Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Auditeur et électeur, soyez le bienvenu.
Oui.
On vous écoute.
Alors simplement, je vais rien ajouter de nouveau à ce qui a été dit. Je suis comme tout le monde dans le flou le plus complet. Pourtant, ça fait un bon bout de temps que je vote, mais j'ai toujours voté par conviction. Sauf une année, vous vous doutez laquelle, 2002. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais voter par conviction, mais je n'ai trouvé nulle part, dans aucun programme, quelque chose capable de répondre à ce que j'attends. Et je ne suis pas le seul. En discutant avec mes petits-enfants qui sont de 18 à 24 ans, eux aussi sont... C'est plus par rejet que par adhésion. Ils savent qu'ils voteront pas Macron, parce que Macron leur promet des conditions de travail très aléatoires, et bien que ces jeunes, il y en a une qui est à bac plus 5 ou 6 après l'école du Louvre et des masters, un autre qui est en médecine mais qui a abandonné tellement le concours les a séchés.
Et donc tout le monde est paumé.
Si vous voulez,
tout le monde est paumé, Emmanuel, si je vous comprends bien.
Voilà.
On va créer une cellule des électeurs anonymes pour essayer de parler ensemble de ces sujets. Merci beaucoup Emmanuel pour ce nouveau témoignage d'incertitude. Alors là, transgénérationnel...
Ça va finir par devenir difficile parce qu'on ne va plus savoir quoi dire.
C'est ça, non mais c'est le reflet de ce qu'est le standard. Frédéric, si vous voulez dire un mot, sinon on y retourne.
Oui, non mais très rapidement, monsieur parlait de convictions. Pour avoir des convictions, il faut savoir ce qui est important. qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la lutte contre le terrorisme? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est l'environnement? Il n'y a pas de sujet, tous ces sujets sont abordés, et parfois même bien abordés quand on lit certains programmes, ils ont travaillé dessus, mais il n'y a aucune idée forte. On pensait par exemple que le terrorisme allait être le référent numéro un, c'est pas forcément le cas, c'est pas le chômage non plus, on parle assez peu de chômage. Voilà, tout ça est un petit peu dilué, et c'est difficile de se faire des convictions quand il n'y a pas de sujet fort.
Patrice, bonjour.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Voilà, je me demande si la remontée relative des échéances de François Fillon ne correspond pas à une posture, comme vous l'avez décrite, très conservatrice sur le plan des valeurs, qui vise notamment à la mobilisation des seniors. Je dois dire aussi une petite réflexion, c'est que les Français reprochent l'absence de morale des hommes politiques, mais moi je suis vraiment écœuré, j'ai un gros doute sur la morale des Français. Sur le moral des Français.
Ah
je
oui.
Sais pas si je peux développer.
C'est un beau lapsus. Merci beaucoup Patrice pour cette question. La parole à Karine Bécard qui suit de près la campagne de François Fillon. Donc déjà remontée relative, disait Patrice pour commencer. Comment est-elle vécue, perçue dans le camp de François Fillon, et puis ensuite les autres aspects de la question.
Alors pour éviter de parler des sondages, parce qu'en fait on n'en sait plus rien, ce qu'on nous raconte beaucoup et ce qu'on voit, c'est effectivement un frémissement. Il y a encore 2-3 semaines, des tracts pas acceptés sur les marchés, des mots très durs, etc. Aujourd'hui, les gens qui vont tracter, qui sont soit des militants, soit des élus, qui racontent en fait ce qu'ils vivent, on est dans la phase d'acceptation. Et effectivement, là-dessus, on rajoute ces discours très bien écrits, il a une très belle plume, hein, François Fillon, qui raconte, qui met en scène très bien ces discours-là et qui fait vibrer la France. Sur l'électorat de droite, en général, ça marche absolument merveilleusement. La semaine dernière, j'étais effectivement à Lyon. Voilà, ville plutôt conservatrice, petite bourgeoisie. Vraiment, ils exultaient, ils ont adoré. Et là, effectivement, je pense que les suffrages, à ce moment-là, remontent. Il a pourtant commis, à mon sens, une petite erreur ce week-end en parlant de sens commun, en disant éventuellement qu'il envisageait de confier un poste de ministre, ou peut-être même plusieurs, à des gens de sens commun, donc issus de la Manif pour tous. Ce qui est amusant, c'est que dans son camp, il y a toute une droite modérée qui n'est pas d'accord avec ça. Elle aurait pu appuyer sur ce qui fait mal. Voilà, on retrouve la droite très disciplinée, pardonnez-moi, tout de même, n'a rien dit quasiment. Il y en a un ou deux. On a Dominique Bussereau, notamment, député de la Vendée, qui s'est fait entendre. Mais c'est tout. Charente-Maritime, excusez-moi. Merci beaucoup, Frédéric. On resserre les rangs pour que ça passe. Et ce soir à Nice, encore une fois, François Fillon est intimement persuadé qui sera au deuxième tour.
Françoise Fressot, sur la remontée de François Fillon et la mobilisation des seniors.
Des seniors,
c'est ceux...
C'est la soirée des lapsus.
Oui.
Alors, pour François Fillon, les seniors, c'est ceux qui ont le mieux tenu dans son électorat au moment où beaucoup l'ont abandonné. En fait, il fait un carton chez les plus de 65 ans. Il a beaucoup plus de mal chez les actifs et chez les jeunes. Le grand mystère de cette campagne, c'est effectivement où est passée la droite. On disait, tout le monde disait avant la primaire, Fillon a gagné la primaire de la droite, il va gagner l'élection présidentielle parce que le pays est majoritairement à droite. Et on a vu quand même une campagne électorale où on a vu au contraire l'extrême gauche se mettre assez en évidence. On a vu Mélenchon qui avait une dynamique et on se demande où est passée la droite. Donc c'est normal que dans la dernière ligne droite, le candidat de droite essaye de réveiller ses électeurs, de les ramener, une partie est chez Macron, une autre partie est chez Le Pen. Et donc François Fillon, dans sa dernière ligne droite, je crois qu'il va essayer de jouer ce sursaut du clivage gauche-droite pour dire, écoutez, il y a encore un camp qui existe et c'est moi qui l'incarne.
Mais il le joue, c'est sûr, et avec la remontée, alors programmée, enfin préannoncé dans les sondages, de Jean-Luc Mélenchon, ça effraie complètement cet électorat. Et ça aussi, ça marche pour faire remonter l'électorat de droite et l'envie de voter pour François Fillon, ça tout à fait.
On retourne au standard. Je salue Bernadette. Bonsoir madame et bienvenue.
Bonsoir à tous.
Nous vous écoutons.
Alors moi, je voudrais dire que j'ai été profondément choquée et que je trouve ça inadmissible que François Hollande ait pris position contre Jean-Luc Mélenchon sans le nommer, en nommant le tribun Et voilà, il est théoriquement le président de la République et tout de suite la mêlée, il n'avait pas à prendre position.
Merci Bernadette pour cette analyse très tranchée. Frédéric Mettezo, Françoise Fressoz.
On peut juste préciser qu'il est allé plus loin puisque sur France 5, dans l'émission C'est politique, il a nommé Jean-Luc Mélenchon, François Hollande. Il avait effectivement, comme le disait Bernadette, parlé du tribun. Là, il est allé beaucoup plus loin. Alors effectivement, il est président de la République censé être au-dessus de la mêlée. Après, il n'est plus président de la République pour très longtemps. Il ne se représente pas. Et il a quand même rappelé Jean-Luc Mélenchon à ce que sont, selon François Hollande, les fondamentaux de la gauche que lui-même, Jean-Luc Mélenchon, lui renvoie sur la construction européenne, par exemple. Et François Hollande, qui connaît l'histoire de son parti socialiste, a renvoyé Jean-Luc Mélenchon à son idolâtrie pour François Mitterrand en disant... en quelques mots, que la vision de la construction européenne qu'a Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas celle de François Mitterrand. On va dire que c'est un peu de bonne guerre entre deux camarades qui se sont affrontés pendant si longtemps au sein du Parti Socialiste.
Françoise Fressoz.
Moi, je crois qu'il y a un différent personnel entre les deux, c'est-à-dire que François Hollande est devenu premier secrétaire du Parti Socialiste au moment où Jean-Luc Mélenchon s'est mis sur sa route et on a assisté pendant des années à une guerre qui n'était pas seulement personnelle, mais c'était vraiment une guerre idéologique. François Hollande s'est mis dans la tête, quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste, d'expurger toute cette gauche tribunicienne dont s'étaient accommodés et François Mitterrand et Lionel Jospin. Et donc Jean-Luc Mélenchon, il a commencé par résister, puis finalement il est parti du Parti Socialiste avec l'idée qu'il aurait la peau de la social-démocratie. Et on est à ce moment-là, on est vraiment à ce moment de l'histoire où le Parti Socialiste de François Hollande est en très très grand danger, il peut disparaître. Et je pense que François Hollande est en campagne pour essayer de faire en sorte que l'électorat qui avait voté pour lui et qui s'est reporté sur Jean-Luc Mélenchon revienne, reparte. Parce que sinon ce serait pour lui l'échec vraiment non seulement de sa présidence, mais ce serait l'échec de sa vie politique si Jean-Luc Mélenchon avait réellement la peau du Parti Socialiste.
Oui, mais ce qui est triste, c'est qui écoute encore François Hollande. Enfin, je veux dire, la question qui se pose tout de suite, c'est ça. Quand on regarde encore sa cote de popularité hier dans le JDD, François Hollande, il a beau avoir annoncé qu'il ne se représentait pas, ça n'a pas fait monter sa cote de popularité.
Peut-être
il est toujours à 20 points seulement.
Une petite audience chez une partie de ses électeurs de 2012. C'est peut-être ça qui joue dans la dernière ligne droite en disant il ne faut pas que Jean-Luc Mélenchon réussisse son pari.
Le PS, d'après vous, Françoise Fressoz, est là en train d'imploser, de couler. Enfin, je ne sais pas quelle est la bonne image pour décrire ce qui est en train de se passé au sein de ce parti.
C'est très compliqué pour lui. C'est-à-dire qu'il y a eu le pari de Benoît Hamon qui avait fondé pendant une partie du quinquennat en étant profondément convaincu que François Hollande trahissait et qui finalement s'est fait doubler par Jean-Luc Mélenchon après lui avoir tendu la main. Et donc, si vous voulez, toute cette gauche du Parti Socialiste qui voulait remonter le Parti Socialiste n'y parvient pas. Et l'aile social-libérale, elle est... presque mangé aujourd'hui par Emmanuel Macron. Donc on verra comment ça va se passer après aux législatives, c'est-à-dire en fonction du résultat de la présidentielle. Mais il y a un grand danger pour que ce parti, effectivement, soit réduit à une toute petite chose.
Frédéric Mettezo.
Et j'ajoute que le drame du PS, ou plutôt du candidat officiel du PS, c'est-à-dire Benoît Hamon, c'est que le PS ménage la chèvre et le chou. C'est-à-dire, par exemple, sur les investitures aux législatives, ce sont nos confrères du Parisien qui nous le révélaient ce matin, le Parti Socialiste refuse d'investir des candidats PS face aux députés socialistes sortants qui ont choisi Emmanuel Macron. Un exemple très simple, Richard Ferrand, député PS du Finistère, a rallié Emmanuel Macron. Face à lui, il aura un vert, un Europe Écologie Les Verts. Il n'aura pas de candidat du PS.
Ça représente une dizaine de circonscriptions seulement.
Mais les symboles sont forts. C'est rien, mais c'est beaucoup. Quand un parti n'est pas capable de sanctionner trancher, ceux qui vont contre son candidat officiel choisi par une primaire qui a réuni 2 millions de personnes, le symbole est éclatant.
Il est 19h44, le téléphone sonne, se poursuit sur Inter.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Thomas, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Je voulais juste poser une question, profiter du fait que le service politique était présent là à l'antenne, pour savoir comment vous faites pour réussir à maintenir l'égalité des temps de parole.
Ouf.
Avec des gros candidats qui parlent beaucoup, des petits candidats qui parlent moins de manière générale. Donc comment vous faites pour réussir cette égalité tant demandée.
Restez voilà. En ligne, Thomas, nous avons Frédéric Mettezo qui ne fait quasiment plus que ça, chronométrer des temps de parole. Alors, comment ça se passe dans le moment très précis dans lequel nous sommes, c'est-à-dire celui de l'égalité absolue?
Voilà, on va rappeler à Thomas la règle du moment, c'est-à-dire que chaque seconde d'un candidat vaut une seconde pour tous les autres. Donc, si j'ai une minute d'un candidat, je dois entendre les 10 autres sur une minute. Et si j'ai une minute 03, c'est sur une minute 03, etc., etc. Donc nous, au service politique de France Inter, on a un agenda, l'agenda des candidats. Donc on doit se démultiplier pour suivre ceux qu'on estime importants à suivre, parce que éditorialement, c'est important. Et puis, il y a d'autres candidats qu'on va juger moins importants. Je ne parle pas de gros ou de petits, parce que certains jours, un gros candidat, on peut estimer qu'il n'est pas important ce jour-là. Donc là, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on mutualise le travail avec les autres rédactions de Radio France. Donc ça, c'est encore beaucoup d'administration. Et plus on fait d'administration, moins on fait d'éditorial. Soit on s'appuie également, toujours à Radio France, sur les camarades journalistes de France Bleu qui vont voir aussi, je vous passe tous les détails, où on doit encore réécouter.
C'est un homme brisé qui s'exprime.
Brisé, fatigué, mais libéré bientôt. Soit on doit regarder des heures entières d'interviews à la télévision pour extraire un extrait d'interview, un morceau d'interview qu'on trouvera intéressant, parce que la facilité, ce serait de faire du remplissage. Ce serait de dire, voilà, il y avait sur telle chaîne de télévision tel candidat dont il faut sortir 37 secondes et demie et de prendre les 37 secondes et demie qui viennent. À France Inter, on se refuse à ça. On essaye de trouver un son, comme on dit, c'est-à-dire un extrait d'interview qui fera une résonance sur un sujet d'actualité. Par exemple, la semaine dernière, nous avions des secondes de retard de Nathalie Arthaud. On a choisi de prendre un extrait d'interview de Nathalie Arthaud sur les bombardements en Syrie parce que c'était l'actualité d'il y a une dizaine de jours. Donc voilà, Thomas, comment on
procède. Vous êtes toujours là, Thomas, ou pas?
Oui, toujours, j'écoute avec attention.
Parce qu'il y a une partie qui va vous concerner très bientôt. Moi, j'ai appris, alors vous l'avez dit, Frédéric Mettezo, on a quand même un respect absolument scrupuleux des règles de temps de parole à la seconde, et ça, c'était jusqu'à ce qu'on découvre, moi ça je l'ignorais absolument, que les auditeurs du téléphone sonnent, sont décomptés eux aussi. S'il dit « je vote Mélenchon », c'est du temps Mélenchon, voilà, et il faut absolument tout rééquilibrer.
À ce moment-là. C'est exactement ça.
Donc l'auditeur aussi, qui téléphone au standard et qui a le droit de dire ce qu'il veut...
L'auditeur est comptabilisé, absolument. Tous les soutiens sont comptabilisés. Et si Charline Vonnenacker s'amuse, par exemple, à faire un best-of des meilleurs lapsus ou des meilleurs bégaiements des candidats, ce sera considéré également comme du temps de parole.
Donc si là, Thomas, vous êtes toujours en ligne...
Oui, toujours.
Vous commencez par nous dire... pour qui vous allez voter, que vous en parlez pendant 2 minutes.
On est cuit.
Et donc, il faut faire quoi, Frédéric, à ce moment-là?
Dans ce cas-là, il faudra 10 autres...
Parce qu'on a peur. Hein, on a peur depuis le début du téléphone.
Il faudra 10 autres Thomas qui votent pour les 10 autres candidats.
Voilà, Thomas, okay. Vous avez votre réponse et vous avez une petite idée de ce qu'on traverse en ce moment. Hein.
Parfait. Ben merci pour l'explication et bonne continuation.
Merci beaucoup, Thomas. Allez, la parole à Claire qui nous appelle de Strasbourg. Bonsoir, Claire.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, c'était simplement pour dire que cette année, je m'abstiendrai. Pour la première fois de ma vie, en fait, je me suis depuis que j'ai le droit de voter, je me suis toujours présentée à tous les scrutins. En fait, j'attendais que François Bayrou se déclare candidat. Et comme il se rallie à Macron, et que je ne suis pas du tout convaincue par Monsieur Macron, ni par aucun autre. Et
c'est une abstention de...
J'ai toujours voté par conviction et non pas en fonction des sondages, de celui qui a les meilleures chances ou de celui qu'il faut soutenir le plus, etc. Donc je n'irai pas.
Claire, c'est une abstention de conviction, si j'ose dire.
Exactement, j'allais le dire, je m'abstiens par conviction.
Donc c'est un vote très politique en fait, c'est une abstention très politique et très réflexive.
Écoute... je m'étais demandé longtemps si j'allais voter blanc, et comme les votes blancs sont comptabilisés comme les nuls, je préfère m'abstenir.
Bah écoutez, merci Claire, ne vous abstenez pas de nous téléphoner, en tout cas pour le téléphone sonne. Votre position politique simplifie notre travail de décompte des temps de parole. Frédéric Mettezo.
Oui, ce que vient de dire Claire, et ça s'ajoute à ce que viennent de dire tous les auditeurs et ce qu'on a constaté dans ce studio, à la fois on voit que les clivages sont plus les mêmes qu'il y a quelques années, en même temps on a quand même 11 candidats. on n'en a pas trois. On a quand même une offre, on a deux candidats, alors une qui se revendique communiste, un autre qui est issu d'un parti trotskiste, on a un souverainiste de droite, on a un candidat socialiste, on a un candidat plutôt issu de la gauche, plutôt anti-européenne, ou en tout cas gauche souverainiste, on a un candidat qu'on va qualifier simplement de centriste libéral, on a un candidat de la droite, et ben malgré, et j'en ai peut-être oublié, et ben malgré tout cela, on a une candidate d'extrême droite. Et ben malgré tout cela, nous-mêmes sommes perdus pour repérer et dégager des idées fortes, et nos auditeurs aussi, et notre auditrice aussi, Claire, puisque pour la première fois, elle va s'abstenir.
Oui.
Karine Bécard.
Ce qui est amusant, c'est que depuis le début de l'émission, tout ce flou dans lequel on est, toute cette indécision, finalement, l'impression que j'ai, et je trouve qu'on l'entend vraiment avec Claire là, maintenant, tout de suite, c'est vraiment l'échec, me semble-t-il, d'Emmanuel Macron. C'était celui qui nous avait promis une autre manière de faire de la politique, de la pensée, sortir du système, entrer dans autre chose. Et finalement, voilà, on l'a écouté, on a essayé de voir, et puis il y a sans doute de la déception. Tous ces gens qui espéraient peut-être autre chose, qui espéraient peut-être croire en lui, ils sont déçus.
Françoise Fressoz.
Alors, on a tendance souvent à comparer cette élection à ce qui s'était passé en 2002, vous savez, où c'était très très serré jusqu'à la fin, et puis l'électeur indécis, tout d'un coup, avait décidé d'envoyer le système par terre parce que ça marchait pas. Je trouve que par rapport à cette période, il y a quand même un effort de renouvellement de l'offre politique, qu'a très bien décrit mes deux camarades. Ce qui peut-être manque pour bien structurer la pensée, c'est qu'il y a beaucoup de personnalisation dans cette élection, et que peut-être il n'y a pas eu un travail de parti pour essayer de faire une élaboration commune dans lesquelles les électeurs se reconnaissent. Alors on voit, et beaucoup critiquent Macron sur l'aventure solitaire, un jeune de 39 ans jamais élu, ça c'est important, et qui tout d'un coup décide qu'il va être candidat à la présidentielle. Ça on le sent, on voit aussi par exemple Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup renouvelé son personnage par rapport à il y a 5 ans et donc qui a fait un peu son truc un peu tout seul dans son coin. Et donc, on a l'impression qu'il y a à la fois beaucoup d'offres et puis c'est pas suffisamment structuré pour que l'électeur se dise « Eh ben, c'est dans cette famille-là que je me reconnais pleinement. » Sur Macron, moi, je nuancerais dans la mesure où il essaye de faire exploser le système. Mmh. Donc c'est normal qu'il y ait de l'indécision, de l'inquiétude, parce que ce garçon arrive à 39 ans et dit « la droite, la gauche, le centre, ça n'existe plus et je vais tout refonder ». Donc c'est normal qu'il y ait un rejet aussi, qu'il y ait de l'interrogation.
Alors je dis autrement, il a suscité peut-être beaucoup d'espoir ou d'espérance, et puis c'est peut-être là, à quelques jours du premier tour, en train de retomber.
Ce qui est sûr, c'est que toute la dynamique qu'il avait au début, il l'a un peu perdue au bout du compte. Mais voilà.
Frédéric, un mot ?
Oui, l'autre paradoxe que j'aimerais souligner, tout ce qu'ont dit nos auditeurs est parfaitement clair. Ils sont perdus, ils se demandent, ils se désintéressent. À l'inverse, le monde entier se passionne pour cette élection. Vous avez une émission de 18h à 19h, Nicolas, où vous faites régulièrement intervenir des correspondants étrangers. C'est une élection qui fascine le monde entier. J'entendais hier sur une autre chaîne du groupe Radio France, Lionel Zinsou, qui disait « Dans toutes les capitales d'Afrique, on parle de cette élection au dîner, dans les salles des marchés, on parle de cette élection. Ce week-end, sur la BBC, il y avait un sketch de John Oliver qui interpellait les Français directement. C'est une élection qui passionne le monde entier, encore plus que celle de 2012. Il y a 5 ans, quand j'étais reporter, quand je sortais encore un peu du bureau et de mes tableaux Excel de temps de parole, je rencontrais des confrères étrangers qui étaient émerveillé par l'éloquence des candidats, par ces meetings qui étaient déjà des grands meetings à l'extérieur, ceux de Mélenchon par exemple, par des Bercy, par le Trocadéro, par la place de la Concorde. Et puis c'est une élection qui est scrutée par le monde entier, parce qu'on a eu le Brexit, parce qu'on a eu Trump, et qu'effectivement, bon nombre d'Européens, mais pas seulement,
qui sera le suivant,
se demandent, des Nord-Américains, des Canadiens, se demandent quel sera le prochain pays qui franchira le cap.
Françoise Fressoz, un mot, et Mickaël au standard.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord, parce que je pense que derrière le vote français, il y a aussi l'avenir de la construction européenne. Et ça, c'est peut-être ça la déception que j'ai moi dans cette campagne, c'est l'absence de contradictoire. Autrement dit, on a des candidats qui sont vraiment antinomiques dans leur choix. Certains qui disent il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'Europe, le libéralisme ça marche pas du tout. D'autres qui disent au contraire il faut continuer. Mais on n'a pas eu cette confrontation qui aurait pu nous faire apparaître. Est-ce que c'est c'est mieux de rester dans l'Europe? Est-ce que c'est mieux d'en partir? Et ça, je pense que c'est la grande frustration de cette campagne.
Michael, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Je vous entends pas très bien, en fait.
Oui, on a des petits problèmes ce soir, mais ça va aller. Là, vous m'entendez mieux?
Oui, je vous entends, oui.
Et voilà, alors on vous écoute.
Ben moi, je voulais réagir à un des propos qui a été tenu par un auditeur et qui disait que, beaucoup d'auditeurs disaient ce soir qu'ils étaient indécis. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et je me demande dans quelle mesure, alors vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais les journalistes n'ont pas une certaine part à la construction de cette indécision. Parce que mon métier, moi, c'est de lire des textes, je travaille à l'université, et je suis obligé de constater que les programmes sont parfois simplifiés de façon vraiment outrancière, au point que ça me fait vraiment bondir derrière mon poste quand j'entends certains résumés qui ne me paraissent pas du tout fidèles à la vérité. Et d'autre part, je trouve que sans même vous en rendre compte, vous n'êtes pas dans une position de neutralité que vous prétendez avoir, et qui est très difficile, hein, j'en disconviens pas, mais l'auditrice qui disait par exemple qu'elle trouvait scandaleux que François Hollande soit intervenu pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, votre journaliste sur le plateau a dit, sans même peut-être s'en apercevoir, qu'elle trouvait triste, et c'était son mot, que personne n'écoute plus François Hollande. Donc elle se rendait même pas compte que dans la phrase qu'elle disait, elle allait dans le sens de François Hollande, et donc dans le sens inverse de l'auditrice qui lui faisait justement remarquer qu'il n'aurait pas dû intervenir.
Alors, Michael, on va vous répondre sur deux choses, mais sur l'intervention de Karine Bécard à l'instant.
J'ai pas dit triste, enfin je crois pas.
Je
et
crois
surtout,
pas non plus.
Il y avait plutôt de ma part, qui a encore envie d'écouter François Hollande? Vraiment l'interrogation totale. Je suis vraiment pas là pour défendre François Hollande. Alors la neutralité, c'est effectivement tout le cœur de notre métier qui est compliqué sur ça, l'objectivité. Ensuite, sur les programmes qu'on simplifierait ou qu'on résumerait, oui, bien sûr, vous imaginez bien que quand on assiste à un meeting, par exemple, de François Fillon, parce que c'est celui que je suis le plus, qui dure 45 minutes, une heure et quart, j'ai pas une heure et quart pour en rendre compte, on m'accorde en général 1 minute 15. Donc oui, évidemment, je suis obligée de procéder à un travail encore plus difficile que la presse écrite, parce que je dois réduire terriblement, donner globalement l'impression qu'il s'est dégagé du meeting. Simplement, je le suis au long cours, ça fait 3 ans que je suis sa campagne, depuis la primaire, et au fur et à mesure on arrive quand même à détailler chacun des points qu'il a envie d'aborder. Voilà ce qu'on essaie de faire.
Frédéric Mettezo, la simplification et le fait de générer de l'indécision, nous journalistes.
Même réponse que Karine. Le problème, c'est que nous, on essaye d'avoir une vision globale de notre travail. Je vais faire un plaidoyer pro domo. Tous les matins, tantôt c'est moi, tantôt c'est Cyril Graziani. On parle des programmes, on prend une thématique. Par exemple, demain, on va parler de la carte scolaire et on dit « Que disent les candidats sur la carte scolaire ?» Bon, on a à peu près 2 minutes. 2 minutes en radio, c'est beaucoup. Ça prend 2 minutes dans le journal de 8 heures qui en fait 15 minutes. Vous faites la proportion, c'est déjà beaucoup. Le problème, c'est que si notre auditeur n'a pas écouté la chronique sur la carte scolaire et qu'il entend parler d'éducation 3 jours après, par exemple sur l'autonomie des établissements, il dira « Mais mince, le journaliste n'a pas parlé de la carte scolaire. »
Vous nous obligez à vous écouter chaque matin, en fait.
Exactement,
c'est ça,
exactement. Voilà, c'est une souffrance. Mais à côté de ça, je peux rassurer Mickaël, le travail est fait par France Inter, parce qu'on peut retrouver ses programmes en ligne sur franceinter.fr. Le Monde a publié un supplément, je crois, vendredi, avec plus qu'un résumé des programmes. Et puis, ces programmes, ils sont tous, parce que je me sert beaucoup de ça, ils sont tous en ligne sur Internet. Après, oui, un programme, ça fait 65, 70 pages parfois.
Mmh. Et puis, on entend au téléphone sonne de très nombreux auditeurs dire qu'ils lisent ces programmes, qu'ils les lisent très souvent tous, et qu'ils se font à partir de là une idée. Moi, je pense, enfin, pour rebondir et répondre partiellement à la question que pose Michael, que les médias, les journalistes n'ont pas le pouvoir qu'on leur prête ni qu'on imagine qu'ils ont, et les électeurs se décident dans un mix instable d'informations prises là et glanées ailleurs, et nous on est juste
on essaye de canaliser.
Oui, voilà, c'est ça, on essaye de faire les choses. Mais alors l'indécision, voilà, elle existe et on en prend acte.
Je crois
on
que
le
ce
voit.
Serait, je crois que ce et serait on le, pire on si on voit. Disait ce programme est le bon et ce programme est le mauvais. Ça, ce serait, il y aurait peut-être moins d'indécision, mais je pense que là, on s'éloignerait beaucoup de l'objectivité et de l'honnêteté dont parlait Michael.
Allez, merci à tous. Merci à vous, amis auditeurs d'Inter. Vous étiez très nombreux ce soir. Merci Karine Beccar, Françoise Fressoz et Frédéric Mettezo. Le journal, c'est tout de suite sur Inter.